Si comme moi, vous vous intéressez beaucoup à votre santé, vous vous intéressez forcément à votre microbiote. C'est un sujet qu'on connaît mal, dont on parle très peu en France. Il y a quelques experts, mais finalement, on ne sait pas vraiment par quel bout le prendre. Et j'ai plusieurs personnes autour de moi, spécialistes, qui m'ont donné la recommandation du docteur Bruno Donatini, parce que c'est lui qui les a formés. Bruno, c'est un docteur extrêmement passionnant. Vous allez voir, c'est très documenté, il explique hyper bien, c'est hyper clair sur comment fonctionne le système digestif, comment ça fonctionne les selles, comment tout ce système fonctionne, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Il va tout vous expliquer en fait dans le détail, vous allez voir, c'est assez mécanique finalement et c'est hyper intéressant. Moi je suis resté complètement passionné dans cette conversation assez longue mais incroyablement prenante en réalité. Je vous laisse l'écouter, allez Vlan. C'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Bruno.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
On va parler du microbiote. À quel moment ça se crée un microbiote chez l'humain?
Le microbiote débute dès qu'on donne de la nourriture à un individu. Donc ça va débuter très tôt, dès la naissance, et certains prétendent même que ça débute in utero, puisque le fœtus se nourrit, bien sûr, se nourrit via le placenta et le sang de sa mère, et dans le sang, il y a des bactéries qui circulent. Donc il y a des publications qui indiquent très clairement que certaines bactéries passent, et donc il est probable que le fœtus ne soit pas stérile, il n'y a pas un seul endroit qui ne soit pas colonisé par des bactéries. Donc ça, c'est un préambule. Donc le fœtus va être exposé à énormément de bactéries et dès qu'il reçoit une nourriture, il va finalement accueillir ces bactéries qui ne pourront pas le détruire. Ensuite, après la naissance, il va y avoir sur un bref délai pour l'accouchement par voie basse quelques bactéries vaginales, mais très rapidement, ce seront des bactéries spécifiques du lait. Jusqu'à ce qu'il y ait la diversification alimentaire. Cette diversification est recommandée vers 4-5 mois. Et là, on a une flore qui se met doucement en place, qui se diversifie sur les trois types de microbiote que l'on connaît pour être équilibrée à partir de la quatrième année. Et entre 40 et 50 ans, on estime que le microbiote est relativement stable. Ensuite, ça se modifie négativement, ça s'altère parce qu'on absorbe moins les nutriments et finalement, les bactéries profitent de ce que nous mangeons plus que nous-mêmes. Donc, on a une phase de diversification de 4 mois à 2 ans, 3 ans, puis ensuite, c'est équilibré et ensuite, ça s'altère.
Est-ce que vous avez un avis, vous, même si l'idée, c'est certainement pas de poser un jugement, mais sur l'allaitement, en ce qui concerne le microbiote?
L'allaitement, donc les publications sont assez claires, c'est bénéfique jusqu'à 4 à 6 mois, et ensuite, ça ne sert plus à rien.
D'accord.
L'allaitement n'a pas d'impact sur la fréquence des allergies et de l'asthme. L'asthme dépend des particules qui sont dans l'air. Donc si vous avez des parents fumeurs, si vous avez une zone polluée, vous ferez beaucoup plus d'asthme. Mais la richesse du biote ne dépend pas du lait, c'est même si vous augmentez la quantité de lait, vous aurez une baisse de la diversité, puisque la diversité va dépendre essentiellement des fibres et des légumes. Donc il est essentiel d'accroître le pool de légumes dès le quatrième mois. Donc l'allaitement, c'est très bien les premiers mois, c'est inutile ensuite, voire pour ceux qui le poursuivent trop longtemps, vous aurez une flore qui sera pauvre.
Et quand on discutait ensemble un petit peu, vous disiez, en fait, on a plusieurs microbiotes. Alors déjà, peut-être, parce que je ne suis pas certain que tout le monde sache ce que c'est que le microbiote,
oui.
Peut-être expliquer ce que c'est que le microbiote.
Quelques mots de définition.
Et puis ensuite, voir combien on en a, oui. Des microbiotes.
Oui. Donc, un microbiote, c'est un ensemble de bactéries, mais aussi de virus, de levures, voire de virus de bactéries qu'on appelle des phages et qui vont contrôler les bactéries et qui vont former une sorte de symbiote, un équilibre qui s'échange certains nutriments, qui élimine des électrons, qui peuvent protéger des tissus ou les manger. Et donc, normalement, un bon microbiote vous protège, c'est une symbiose, mais il y a des microbiotes délétères qui vont vous manger, qui vont être des parasites ou des destructeurs de tissus. Donc, un microbiote, c'est un ensemble d'organismes vivants. Et théoriquement, il y a 90% de cellules étrangères dans un être vivant. Donc, l'être vivant forme avec ce microbiote ce qu'on appelle un holobionte, c'est-à-dire une symbiose entre ses propres cellules nobles et l'extérieur. Nous sommes tous, y compris les plantes, les animaux, des holobiontes. Donc un mélange de cellules nobles et de microbiotes. Les microbiotes dépendent de l'endroit où on regarde. Fort heureusement, le microbiote buccal n'est pas équivalent au microbiote rectal. Donc on ne devrait pas parler du microbiote, on devrait parler des microbiotes qui dépendent de l'endroit où on se situe. Et non seulement de l'endroit, mais du moment de la journée. Quand vous êtes à jeun, ce n'est pas le même microbiote que quand vous venez de manger, bien entendu. Deuxièmement, il y a le microbiote qui glisse sur les muqueuses et qui est passagère, qui induit peu d'interactions, et le microbiote qui va être profondément ancré et en symbiose avec nous, en particulier le microbiote dans la muqueuse. Celui-là, c'est le microbiote le plus important parce qu'il va servir de barrière, d'échange nutritionnel, de stimulation immunitaire. C'est notre gardien. Si c'est un bon microbiote, le microbiote muqueux va nous permettre de vivre longtemps. Et enfin, il y a le microbiote qui est parvenu à traverser la barrière, si possible sans dommage, et qui va finalement occuper des organes clés comme par exemple la paroi des artères ou des veines. Si vous avez un microbiote protecteur, vous aurez peu d'inflammation. Si en revanche il s'agit d'un microbiote capable de manger les muqueuses, qui provient par exemple d'un abcès dentaire et qui va par effraction aller dans la circulation sanguine, vous aurez un microbiote interne qui va créer des anévrismes, des abcès. Et là, vous êtes en danger. Donc, il y a des microbiotes.
Et comment on peut prendre soin de ces microbiotes, alors ?
Les grands principes sont les suivants. Ce sont des dogmes, on ne va pas pouvoir trop détailler, il va falloir accepter certaines choses. Le microbiote idéal est un microbiote diversifié. Il faut qu'il y ait de grandes populations, et classiquement, il faut trois grands types de bactéries pour être protégé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas un microbiote capable de manger nos muqueuses ou de créer des trous. Donc, il faut que certaines bactéries soient le moins représentées possible. Donc, diversifier sans mauvaises bactéries. Et puis, il faut, si possible, une stimulation immunitaire qui exclut les virus, en particulier les herpès-virus. Les herpès-virus paralyse le nerf vague, qui est le nerf moteur essentiel de la digestion. Donc, flore diversifiée, bonne immunité, bonne motricité. Ce sont les trois conditions pour avoir un bon microbiote. Quand on a ces fonctions, on a bien souvent une fonction hépatique et biliaire parfaite. Et la bile, ça dissout les graisses de la paroi et ça permet une autophagie. Quand la cellule contient peu de graisse, elle est obligée de puiser dans ses réserves. Et en puisant dans ses réserves, on a ce qu'on appelle une cétose, un nettoyage. Et la cellule endommagée va se manger partiellement. C'est une autophagie. Elle se mange elle-même et elle nettoie ses impuretés ou tout ce qui n'est pas fonctionnel. Ce nettoyage-là détruit les cellules tumorales, les cellules infectées, les infections bactériennes intracellulaires et enlève les graisses qui sont inflammatoires. Donc l'acétose est bénéfique. Pour ça, il faut qu'il y ait des selles biliaires de qualité, donc une fonction hépatique de qualité. Cette fonction dépend du nerf vague, bien sûr, mais aussi de ce que l'on mange. Si vous consommez de l'alcool, si vous consommez beaucoup de graisse et de sucre, les selles biliaires fonctionneront moins. Si vous avez des bactéries qui mangent et détruisent les selles biliaires, pareil, vous aurez dès l'estomac beaucoup de gaz et pas assez de selles biliaires pour nettoyer les muqueuses. Vous aurez une vilaine flore et vous aurez surtout une accumulation de graisse dans les cellules qui perdront leur fonction. On aura une perméabilité, un risque infectieux et inflammatoire. Donc un biote, c'est aussi une fonction du foie, du pancréas. C'est pas que une muqueuse. La muqueuse doit être entretenue. par du mouvement et un nettoyage.
Comment ça se fait ? Enfin, peut-être, combien de personnes aujourd'hui ont des gènes gastro, en fait, on va dire en France. C'est quoi le pourcentage de personnes qui ont des problématiques gastro-entérologue ?
Non. Alors, gastro-entérologique.
Voilà, merci.
Si je prends dans ma consultation, on va avoir 85 à 90% des personnes qui viennent me consulter pour quelques symptômes, on va trouver une dysbiose, c'est-à-dire une flore déséquilibrée. C'est énorme. Et cette flore, elle est déséquilibrée le plus souvent à cause d'un excès de sucre et d'un défaut de fonction du nerf vague de vidange. Ensuite, on va avoir quelques personnes qui vont avoir des polypes ou des tumeurs et des personnes qui vont avoir des maladies inflammatoires de l'intestin et du côlon. Les hépatites sont de plus en plus rares, sauf les hépatites graisseuses. Donc, je dirais, si on prend la population, mais toujours pareil, quel type de population ? Est-ce que ce sont des enfants, des adultes, ou est-ce que ce sont déjà des personnes qui ont 50, 60 ans, et où on a une détérioration de la flore ? Si vous avez plus de 50 ans, vous aurez toujours des troubles. Donc, il faut optimiser. Il n'y a rien à faire. Si vous avez une excellente flore, une excellente immunité, que vous faites du sport, une bonne diététique, il est probable que vous ayez peu de troubles jusqu'à 50 ans. C'est parfait. Mais c'est une minorité de personnes. On est sur des cas comme Djokovic, qui a une hygiène drastique et qui étonne tout le monde. C'est un jeune homme. Et parfois, vous avez à l'inverse des enfants qui ont une mauvaise génétique, ont eu des désastres buccaux avec des caries ou des herpès et finalement des déficits immunitaires très précoces. Et à 14 ans, il y a déjà d'énormes dégâts. On peut le voir sur une langue découpée avec des réactions cutanées, avec du psoriasis dès l'adolescence ou des acnés extrêmement importants. Donc, plus vous avez des signes cliniques globaux, plus vous aurez une dysbiose. L'acné, c'est une dysbiose digestive. C'est ce qu'on appelle un syndrome métabolique cutané d'origine digestive. Donc, si vous me disiez combien d'adolescents ont de l'acné, je dirais beaucoup. Et combien d'adolescents consomment trop de sucre et sont en surpoids, je vous dirais encore plus. Mmh. Donc, si on voulait faire une approximation, et là, on retombe sur des chiffres de ma clientèle. On a un tiers de personnes qui ont une flore pauvre avec des graisses, un tiers de personnes avec une flore agressive, buccale, cutanée, avec un risque tumoral ou d'inflammation chronique, et un tiers de personnes qui font du sport, qui ont une bonne hygiène de vie. Et ça, c'est un équilibre aux alentours de 30-40 ans. Mmh. Donc, j'ai envie de dire, ce sujet concerne tout le monde. Et dans une famille, on va dire, deux enfants, vous êtes sûr qu'il va y avoir un problème de microbiote à résoudre. Hmm.
Peut-être qu'on peut revenir aussi à, je me disais en vous écoutant, quand je mange quelque chose, donc je fais un choix, que ce soit un fruit, un légume, une viande, un bonbon, ou une barre chocolatée, ou je ne sais pas quoi, je fais un choix. Ça peut être aussi de l'alcool, ou de l'eau, ou un thé, ou peu importe. Qu'est-ce qui se passe ? Donc ça descend dans mon tube digestif, ça va dans ma bouche d'abord, et ça a des impacts, j'imagine. Ensuite, ça va dans mon tube digestif. Comment ça fonctionne ?
Quelques mots de physiologie. Donc, première étape, la bouche, bien entendu, avec la sécrétion salivaire, qui est importante, 2 ml par minute, ce qui est énorme, beaucoup d'enzymes, découpage des sucres, et surtout de l'amylose, donc des sucres de céréales. On va avoir aussi un mécanisme de déglutition ici, très important, donc mastication, déglutition, coordonnée par le nerf vague en grande partie. Et on va avoir, bien sûr, l'hygiène dentaire qui est primordiale. Si vous avez des débris alimentaires entre les dents, vous aurez une mauvaise flore qui va apparaître, un risque de carie, mais aussi un risque de gingivite, puis plus tard une baisse d'immunité. La deuxième flore en diversité du corps, c'est la flore buccale. Donc c'est fondamental. En diversité absolue, c'est même elle qui est au premier plan, puisque les bactériophages, les petits virus de bactéries qui vont déterminer toute la suite de la diversité, sont dans la bouche et pratiquement exclusivement dans la bouche. Ce sont eux qui protègent nos tissus nobles et qui empêchent les virus, les bactéries du tube digestif qui peuvent passer, qui les empêchent de s'implanter. C'est le nettoyeur de nos tissus propres. Donc si vous avez une diversité de phages, vous aurez une protection de vos tissus nobles. Ça c'est la bouche.
Ça suppose de se laver les dents régulièrement ou...
Donc premièrement, il faut éliminer les flores dites anaérobies, les flores qui sont entre les dents et entre la dent et la gencive, qui sont destructrices des tissus. Ça suppose de bien nettoyer entre les dents, avec soit des petites brossettes, soit des fils dentaires. Et s'il y a des petites bactéries agressives, c'est un groupe de bactéries qu'on appelle Prevotella, et il y a une bactérie particulière qui s'appelle Fusobacterium, qui est à l'origine des cancers du côlon, du pancréas, de la langue, de certains cancers du foie, et qui est associée à l'Alzheimer. Donc c'est une vilaine bactérie, on peut le voir avec une lampe simple, une lampe LED bleue, et ça fait un petit trait rouge au niveau du collet dentaire. Cette bactérie déteste l'oxygène, on peut la nettoyer en utilisant des petites quantités d'eau oxygénée diluée, et on peut aussi utiliser des toutes petites quantités d'huile essentielle, mais c'est du 30e de goutte. Oui. On ne doit jamais tuer sa flore avec des huiles essentielles au-delà de cette dose. Donc quand on utilise des microdoses, on tue spécifiquement les bactéries ultra-sensibles. Et on va tuer spécifiquement ces bactéries-là et enrichir notre flore avec une diversité bénéfique. Donc on peut nettoyer la bouche et supprimer les bactéries néfastes du groupe Prevotella qui induisent les maladies parodontales et qui induisent des maladies comme les tumeurs ou les neurodégénérescences.
Et si je prends par exemple un bain de bouche qui est vendu en supermarché ou chez la pharmacie, ça fonctionne ou ça nettoie tellement qu'il n'y a plus de...
Les bains de bouche classiques sont à la chlorhexidine, qui sont une substance bactéricide, et c'est trop puissant. On risque de tuer toutes les bactéries et de ne pas tuer spécifiquement et suffisamment les bactéries anaérobies. On préfère vraiment les nettoyages à l'eau oxygénée diluée et les microdoses d'huile essentielle parce que, en plus, si vous nettoyez en bain de bouche, vous aurez un effet buccal, mais pas digestif. Alors que si vous utilisez des microdoses d'huile essentielle sur des petites fibres, vous aurez un effet sous-jacent sur l'estomac et le début du Graal.
D'accord.
Faut bien vous dire que la bouche ensemence, bien sûr, l'estomac et le duodénum. Donc première étape, une bouche propre et un réflexe de déglutition de qualité, qui dépend du nerf vague. L'œsophage, il y a peu de choses à dire, c'est vraiment un tuyau de transit. Et on arrive dans l'estomac qui va désinfecter théoriquement la flore grâce à son acidité. Et il y a très peu de flore dans un estomac. L'estomac, c'est le moteur, c'est là où il y a un pacemaker, des contractions automatiques, et il va se vidanger dans l'intestin grêle. C'est toute la complexité. Quelquefois, ce pacemaker ne marche pas bien, ou il y a des spasmes, et ça empêche la vidange. Si vous avez un défaut de vidange, tous les aliments vont stagner dans l'estomac, ça va hyperfermenter, et tous les sucres, y compris les féculents, vont être transformés en graisse. Et là, vous aurez un foie gras, un pancréas gras, et puis vous aurez une accumulation de graisse sur toute la muqueuse de l'intestin. Surtout que quand un sel biliaire stagne, il est décomposé par les bactéries buccales, par certaines bactéries buccales, et là, le sel biliaire devient inefficace. Vous avez une accumulation de graisse dans la muqueuse, ça se voit même à l'échographie, vous avez un spasme, et vous n'avez plus d'autophagie. Vous allez vers le syndrome métabolique et le risque tumoral associé au syndrome métabolique. Donc il faut que l'estomac se vide. Il ne faut pas qu'il y ait de bactéries dans l'estomac. D'où une petite parenthèse. Si vous prenez des probiotiques dans un estomac qui ne se vide pas, vous exacerbez le problème. Il ne doit pas y avoir de bactéries dans un estomac. D'accord ?
Et comment on peut savoir si ça fonctionne bien ?
C'est un ressenti assez net. le patient va vous dire, premièrement, je suis rassasié très vite. Deuxièmement, il va vous dire, ça ballonne, ça fait mal ici, et puis j'ai beaucoup de rots. Donc ça, il le ressent. Deuxième signe, et c'est indirect, il va vous dire, j'ai tendance à prendre du poids, surtout quand je prends du sucre. Et il va vous dire, je suis fatigué, des coups de barre après le repas, postprandio. Tout ça sont des signes d'un estomac qui se vide très mal. Le reflux, bien sûr, il va se coucher après le dîner, ça remonte. C'est un estomac qui ne se vide pas bien. Donc, ce sont des signes très évocateurs.
Et ça, pour le régler ?
Alors, on est dans quelque chose de compliqué. Je pense qu'on y reviendra, mais en deux mots. On a très probablement un excès de prise de sucre. Donc, la diététique est primordiale. Il peut y avoir aussi des facteurs qui bloquent le nerf vague. L'alcool est un toxique. Les insecticides sont des toxiques. L'environnement, les plastiques qui peuvent avoir un effet de perturbateur endocrinien peuvent jouer aussi. Mais on a également des médicaments comme les antidépresseurs, les antihistaminiques contre les allergies. Et enfin, on a tout le volet viral. Le Covid bloque la vidange d'un estomac parfois des mois. Et plus il y a un Covid long, plus vous aurez un estomac qui se vide mal. Vous serez devant des gens épuisés par défaut d'absorption des sucres. Et puis vous avez les herpès qui sont, comme le Covid, de très grands neurotoxiques. Donc là, on a des causes à éliminer pour favoriser la vidange. Donc si on continue notre cheminement des aliments, on arrive dans l'intestin grêle qui est l'endroit le plus important puisqu'on va avoir un découpage ultime en petites particules qui seront absorbées et c'est la seule zone où on va vraiment absorber les nutriments. 70% de l'absorption se fait dans les 70 premiers centimètres. Or, c'est le plus fragile, c'est le plus près de la sortie de l'estomac. Si l'estomac est hyper acide, ça va tout brûler. Si vous avez des mauvaises bactéries buccales qui font saigner les gencives, vous aurez une destruction de la muqueuse du grêle. Si vous avez des virus dans la bouche, vous aurez des virus dans le grêle. Si vous avez une stagnation de l'estomac, l'atteinte neurologique va atteindre le grêle, il y aura une stagnation dans le grêle. Donc ça, c'est l'endroit le plus précieux qui existe. On s'en rend bien compte, puisque dans la maladie cœliaque, l'intolérance au gluten, c'est la zone touchée. Et la maladie cœliaque, on sait très bien que c'est très grave et qu'on a des pertes de croissance dès l'enfance et finalement des pertes de muscles et d'os relativement précoces. C'est cette première partie qui est touchée. Donc le grêle, c'est vraiment essentiel. Ça absorbe les sucres, les protéines, les graisses. Les graisses plutôt à la fin avec les vitamines. Le côlon ne sert à pas grand-chose, c'est un simple réservoir, je dirais, pour la continence et la sociabilité. C'est pour ça que quand je dois étudier une flore, je préfère étudier l'état de l'estomac et du grêle par l'échographie et faire un test respiratoire pour voir le fonctionnement des bactéries sur la partie haute plutôt que d'analyser dans le détail les selles. Puisque les selles, c'est l'analyse de la fin du côlon. C'est même pas le début, c'est la fin du côlon. Ça stagne, c'est pas différent si on a mangé ou si on n'a pas mangé, alors que la flore varie bien sûr dans l'estomac et l'intestin selon que l'on a mangé ou pas. Donc, le biofilm utile, c'est le biofilm de la partie haute, la bouche, l'estomac, le grêle. Si on a une diversité dans ces parties-là, on aura une excellente fonction. Si on a une flore pauvre, on aura une flore pauvre en bas et une mauvaise fonction.
Et le pancréas, il sert à quoi là-dedans ?
Alors, on a, bien sûr, deux glandes fondamentales qui viennent s'aboucher dans le duodénum, entre l'estomac et le grêle. Et ces deux glandes, c'est le foie, avec les sels biliaires. Ça dissout les lipides, ça nettoie la paroi intestinale, c'est fondamental. Le deuxième, c'est le suc pancréatique, avec des enzymes qui vont découper les protéines, la trypsine, la chymotrypsine. Si vous avez un pH alcalin, ça veut dire que si l'estomac est trop acide, ça ne marche pas bien. Donc ça, c'est la fonction principale du pancréas. Et puis, on a une fonction qui est très importante, c'est la fonction endocrine avec l'insuline, le glucagon, qui régule la glycémie. Le pancréas est rarement déficient. c'est vraiment une minorité de personnes, 1% de la population, même pas. Dans ce cas-là, on a une perte de poids importante et de la diarrhée. Donc, on le mentionne assez peu. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est plus le diabète. Mais c'est un diabète pas par déficience que l'on observe actuellement, c'est le diabète par excès de graisse. Donc, l'organisme devient résistant à l'insuline qui, elle, est synthétisée de façon normale. Donc, le pancréas est très gras, il synthétise beaucoup d'insuline, mais ça ne sert à rien puisque le sucre ne peut plus rentrer, les cellules sont déjà gorgées de graisse. Donc, elles n'acceptent plus l'entrée du sucre pour être stockée.
Et l'insuline, ça sert à... En fait, l'insuline... Donc, en fait, ce qui se passe quand on mange du sucre, ça génère de l'insuline, c'est ça? Je ne me trompe pas?
Oui.
Mais l'insuline, elle a une fonction quand même dans le corps.
Oui. L'insuline, donc, réagit à la glycémie. Normalement, on doit avoir une glycémie inférieure à 0,9 ou 1 gramme par litre, pour simplifier. Quand la glycémie monte, vous avez une réaction du pancréas avec une synthèse d'insuline pour que la cellule puisse finalement engranger le sucre, ne pas le laisser circuler pour rien, et se servir de réserve. Ce sucre est transformé en graisse. C'est la lipogénèse. On crée de la graisse. Le glucagon, c'est l'inverse. Si vous jeûnez, vous avez du glucagon et vous allez synthétiser du sucre à partir des graisses. C'est la lipolyse. Donc l'insuline, normalement, régule assez facilement ce sucre, mais quand les cellules d'accumulation sont pleines de graisse, vous ne pouvez plus forcer le sucre à rentrer. Tout est déjà plein, les stocks sont faits. Le foie est plein, le pancréas est plein, la graisse autour des intestins est à son maximum. Il faut monter le taux d'insuline, ce qui fait que l'insuline va être élevée et la glycémie va augmenter. Et on fait désormais non plus une mesure simple de la glycémie, mais on fait un rapport qui s'appelle le rapport OMA, insuline sur glycémie. Donc si votre glycémie est très élevée et que votre insuline élevée, glycémie normale, vous aurez un OMA très élevé. Ça veut dire que vous êtes déjà dans la résistance à l'insuline et vous êtes en prédiabète. Là, il faut absolument baisser la graisse.
Donc c'est pas le sucre, c'est le gras qu'il faut baisser.
En général, on baisse le gras. On a par exemple un médicament qui s'appelle la metformine, qui est le médicament le plus prescrit dans le diabète de type 2 en première étape, qui va baisser la graisse viscérale sans bouger l'insuline. Elle n'a aucun effet sur l'insuline, donc pas de risque d'hypoglycémie. On va avoir une augmentation de l'élimination de cette graisse viscérale, une augmentation de l'autophagie, une augmentation modéré mais quand même mesurable des selles biliaires.
Et qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui prennent ce médicament alors qu'ils ne sont pas en diabète?
Alors vous avez en effet une tendance, surtout dans la médecine anti-âge, à prescrire, dès que vous avez un HOMA un peu élevé, donc un pré-diabète, à prescrire la metformine à faible dose. Il a été montré que on est hors AMM, on est d'accord, hein. C'est-à-dire que ça n'est pas dans la recommandation classique. Normalement, il faut attendre 1,05 g par litre pour parler de prédiabète. Mais dans la médecine dite anti-âge préventive, on va, dès que le HOMA est supérieur à 2,2, tenter d'enrayer ça. Je pense que la première étape, c'est la diététique, avant toute chose. Et si on n'y arrive pas par la diététique, on est, je dirais, en droit, si on a un HOMA supérieur à 2,2, d'essayer la metformine pour récupérer ce HOMA au-dessous de 2,2. On n'est pas loin de l'indication. Hein. Le problème, c'est que on n'est pas très préventif chez nous, alors qu'on devrait l'être. La prévention, elle doit commencer par du non-médicamenteux. Activité physique, baisse du sucre. Si ça échoue, pourquoi ne pas donner une chance à la personne avec des médicaments éprouvés? C'est un vieux médicament, peu d'effets secondaires à faible dose, très bien toléré et qui fonctionne très bien. Donc je ne serais pas opposé à une prescription hors AMM. Hein. Donc c'est un médicament peu coûteux, ce ne sera pas remboursé, sans risque, avec une surveillance médicale, ça me semble tout à fait cohérent.
C'est quoi le lien entre le système immunitaire, qui est un sujet dont on parle tous et toutes, c'est vraiment un mot qui rentre dans le vocabulaire courant, et le microbiote, qui est pour le coup, lui, beaucoup moins courant?
L'immunité, c'est tout un monde. Donc, on va essayer d'expliquer un peu ce que c'est, mais ça va aller très vite. Et encore une fois, il faut accepter certains dogmes. Si on reste schématique, c'est extrêmement simple. Donc, vous avez une immunité dite innée que tout le monde a dès la naissance. C'est une réaction avec des grosses cellules très inflammatoires qui libèrent de l'histamine ou qui vont créer des réactions énormes cutanées. Donc, on va parler des éosinophiles, des mastocytes, des macrophages. C'est une réaction violente qui correspond à une réaction que l'on peut avoir quand vous avez une plaie, une brûlure, une piqûre d'insecte. Ça peut devenir énorme chez certains, plus modéré chez d'autres. Donc ça, tout le monde a cette immunité innée qui doit être normalement contrôlée pour éviter les gros dégâts. Parce que si à chaque fois que vous faites une piqûre, vous avez une inflammation qui vous détruit la moitié du bras, c'est pas, vous n'y gagnez pas parce qu'après ça va être dans le nez, dans la bouche. Donc il faut une réaction innée contrôlée. Deuxième type de réaction, c'est la réaction acquise avec des anticorps et ça dépend des lymphocytes helpers. Ces globules blancs qui sont touchés dans le sida et qui baissent l'immunité. Si vous avez des lymphocytes helpers corrects, vous aurez des taux d'anticorps corrects. On vous vaccine, ou vous êtes exposé à une maladie, vous faites des anticorps, vous êtes protégé. Immunisation. Plus vous avez une immunisation correcte, mieux ça vaut. Et normalement, à partir de 4 mois d'âge, le taux d'anticorps transféré par la maman, qui est fertile donc en bonne santé, va baisser chez le nouveau-né. Et donc à partir de 4 mois, c'est l'explosion des infections virales. Les infections virales de l'enfance, la rubéole, la rougeole, enfin tout ce qui peut passer, la varicelle, la bronchiolite, le syndrome pied-main-bouche. Bref, entre 4 mois et 2 ans, c'est toute la ribambelle des infections. On dit, bah, il faut bien qu'il s'immunise, le pauvre petit, mais en fait, ça peut tout à fait le détruire parce que vous avez des enfants qui ont une mauvaise immunité acquise à cause d'un interféron qui est bas. Et plus vous ferez des infections comme la bronchiolite tôt, plus vous aurez un interféron bas, puisqu'il y a des virus qui baissent l'interféron. Le virus respiratoire syncytial, le cytomégalovirus, si vous l'attrapez tôt, c'est définitif, catastrophique, marqué au fer, dès le début de votre vie, vous avez perdu vos chances. Donc l'objectif, c'est de préserver les enfants de cette catastrophe. Pour les préserver, vous avez des stimulations, vitamine D, certains champignons, mais surtout une qualité de flore. Et la flore qui protège énormément, c'est une flore qui produit du monoxyde d'azote. C'est une flore qui transforme les nitrites en monoxyde d'azote, et c'est une flore buccale. Donc si vous avez une bonne flore buccale, et c'est collé sur les dents, et souvent l'émergence des dents vient avec la diversification alimentaire et ça vous protège des infections virales qui vont apparaître. Rien n'est lié au hasard. Si les dents sortent là, ben c'est que ça a peut-être son utilité, pas que pour mastiquer, mais pour avoir une bonne flore. Tout est coordonné. Il n'y a pas de hasard dans la nature. Donc, on doit introduire la diversification quand les dents sortent et on va bénéficier d'une flore avec du monoxyde d'azote capable de tuer la plupart des virus, y compris le Covid d'ailleurs. Donc, flore riche, motricité digestive correcte, épaisseur de muqueuse correcte, beaucoup de fibres, qualité de l'immunité, pas de virus. Donc la qualité de l'immunité, c'est pas de virus et ça dépend de la diversité du microbiote dans la partie haute et dans la partie buccale en particulier.
Alors comment on fait? Alors j'ai plusieurs questions très, j'allais dire opérationnelles, mais
pratiques.
Pratiques. La première, c'est comment on fait pour avoir un microbiote diversifié? C'est-à-dire qu'il faut manger plein de choses différentes, plein de légumes. Comment ça faut? Si on a tendance, moi j'ai plutôt, je sais pas si on a tendance, mais moi j'ai tendance à manger beaucoup de légumes, mais néanmoins toujours les mêmes. Donc ça c'est la première question. Est-ce que c'est important que ces légumes soient bio, pas bio? l'importance des produits transformés, ou l'impact plutôt, parce que l'importance, je ne suis pas sûr, mais l'impact des produits fermo-lactementés aussi. Qu'est-ce qui est bien de manger, pas bien de manger pour faire ça?
C'est une énorme question.
Oui.
Donc, l'objectif, c'est d'avoir une flore qui produit 4 types de microbiote. Donc, il faut qu'il y ait de l'hydrogène, des acides gras et du monoxyde d'azote dont on a déjà parlé. Pour ça, il faut un apport, bien sûr, nutritionnel correct. Il ne faut pas qu'il y ait une surabondance d'une flore néfaste qui détruise les muqueuses. Et une mauvaise immunité qui participe à cette flore néfaste, puisque la mauvaise immunité va bloquer l'estomac, confère le Covid, l'herpès dont on a déjà parlé. Donc, quand on compare les flores de l'enfant européen et de l'enfant africain rural, on s'aperçoit que l'enfant africain rural a une flore beaucoup plus importante dès l'estomac, parce qu'il mastique énormément de fibres. Et il a une flore capable de découper les fibres dures qu'on appelle les xylanes, quasiment du bois, on a envie de dire, des fibres. Il mâche des fibres. Donc il salive beaucoup et il a des légumes qui sont résistants sous forme de tubercules ou de côtes de feuilles. Nous, on mange des yaourts, des produits mixés, du jus de fruits et de légumes, de la purée et puis des produits pas bio. Et finalement, les légumes, il y en a peu. Et quand il y en a, c'est pas fibreux. Et parfois, c'est tout juste si c'est pas sous forme exclusivement de jus ou de soupe. C'est une catastrophe. Donc ça, vous avez la première conclusion qui est de dire, a priori, c'est sous forme de fibres, donc ce sera du légume. Et deuxièmement, ce sera du légume plutôt fibreux que l'on aura mastiqué et pas sous forme de jus. Ça, c'est le point fondamental. Et toutes les études sont claires hein, de NutriSanté. Il faut des fruits et légumes. Moi, je raccourcis en disant, il faut des légumes parce que les fruits, il y a trop de sucre. On ne prend jamais de jus de fruits, pas de confiture, et on évite les sucres ajoutés, même le miel. Donc on va grossir la part des légumes. Premier grand point, des légumes fibreux. Il faudra blanchir le légume parce qu'on y reviendra, il y a beaucoup de composés nocifs, souvent dans la culture des légumes. Et puis souvent, il y a des sucres indigestes. On va y revenir. Deuxième volet sur le légume, il faut qu'il soit bio, bien entendu. Parce que si vous avez beaucoup de pesticides et autres produits toxiques, y compris dans l'eau qui sert à arroser, vous aurez un concentré dans les légumes qui sont souvent des phytorémédiateurs, c'est-à-dire des concentreurs de toxiques. On a une augmentation de la teneur en métaux lourds. Donc il faut blanchir le légume.
Blanchir les légumes, ça enlève le...
On va enlever une partie des minéraux et des vitamines, à peu près 20%, mais on va diminuer la teneur en métaux lourds, cadmium, nickel, cobalt, on va diminuer les pesticides, on va diminuer les sucres qui vont être dissous, on va beaucoup moins ballonner, on va enlever tout ce qui est en surface et qui peut être contaminant, les œufs d'insectes, les œufs de parasites, les bactéries du fumier qui sont des vilaines bactéries, et on va enlever les éventuelles petites moisissures qui ont commencé à entamer une carotte, une betterave, et qui sont riches en mycotoxines, extrêmement toxiques pour la santé. Plus on a un légume poussé sur un sol bio, plus il y a de mycotoxines dedans. Donc il faut éliminer ça par un blanchiment qui est un nettoyage dans l'eau un peu frémissante.
Et si on cuit à la vapeur ?
Vous aurez moins de nettoyage, vous aurez plus de toxiques.
Ah, vous aurez moins de nettoyage quand même.
Plus vous mangez des légumes fibreux, plus vous les blanchissez.
D'accord. Donc même les légumes qu'on cuit à la vapeur, il faut les blanchir.
C'est beaucoup mieux de blanchir.
D'accord. Donc on les passe dans l'eau chaude.
On les passe dans l'eau chaude. C'est comme le faisaient nos grands-parents.
Deux ou trois minutes, quoi.
Deux ou trois minutes. Ça a l'avantage aussi de dépasser 70 degrés. Donc, vous tuerez les mycobactéries qui sont d'horribles bactéries résistantes aux antibiotiques qui favorisent la prise de poids ou la maladie de Crohn. Donc, 70 degrés, c'est la base, hein, c'est la pasteurisation. Ça fait 150 ans qu'on en parle. Il faudrait peut-être l'appliquer à un moment ou à un autre. 70 degrés, s'il vous plaît.
Ok, très bien.
Pour revenir un détail sur les légumes, un légume bio, par définition, ou si vous avez une certification bio, c'est un légume qui a les pieds dans le sol. Ce n'est pas de l'hydroponique. Hein.
Oui, bien sûr.
Hein, c'est pas, voilà, j'avais un pot et j'ai mis une plante dans mon pot. Non, c'est de la terre avec des bactéries.
C'est pareil partout en Europe ?
Normalement, les certifications éco devraient être comme ça. Mmh. En pratique, si on en parle avec les autorités européennes, le certificat français est un peu plus dur et regardant et vient vérifier que les... chaque année, vient vérifier que vous avez planté vos légumes dans le sol. Hein. Sinon, vous n'avez pas le label bio. Mmh. Si vous êtes en cagette, en pot ou pire hydroponique, ça c'est sûr qu'en France, vous dégagez.
Les tomates cerises qu'on mange, ou les fraises d'ailleurs, beaucoup qu'on mange...
Elles sont très probablement pas bio.
C'est ça.
C'est poussé en pot.
C'est ça. En pot ou alors en hydroponique.
Oui.
Il y a pas mal de tomates cerises qui poussent sous les ponts.
Alors, vous faites bien de parler de ça. Une tomate n'est pas un légume.
C'est vrai, c'est un fruit.
C'est un fruit. Une fraise, c'est une akène, c'est un fruit. Donc, le légume, ça a les pieds et les racines dans le sol, et ce n'est ni une graine, c'est pas des haricots en grains, ni un fruit, c'est pas une tomate, ni une aubergine, ni une courgette, c'est une feuille. Jusqu'à preuve du contraire, ou une racine.
Une aubergine, c'est un fruit ?
C'est un fruit, comme une tomate.
Ah.
Une aubergine, un fruit, un poivron aussi, une courgette, un fruit, une citrouille aussi.
Ah, je mange beaucoup de fruits, moi, je m'en rends compte.
Voilà, les gens mangent beaucoup de fruits, il n'y a pas de biote dans un fruit.
D'accord.
Et quand on leur dit, mais les épinards, les haricots verts, la mâche, la roquette, là, vous avez très peu. Très, ouais. Très peu.
Moi, je mange beaucoup d'aubergines et de courgettes.
C'est ça.
Et de...
tout ça, c'est du fruit. Donc, vous, si en plus, vous désinfectez un petit peu trop votre environnement, alors l'environnement, ça peut être de l'eau de Javel partout, ou aller à la piscine, là, vous désinfectez tout, des bains de bouche à la chlorhexidine, des huiles essentielles pour parfumer, une désinfection avec de la propolis ou de... un petit peu d'argent colloïdal, vous vous retrouvez avec une flore désespérément pauvre. Alors que c'est la routine. Et vous vous dites, je vais améliorer mon environnement, ça va sentir bon, ça va être propre. À force d'être très propre, c'est malsain. Mmh. Il y a une étude suédoise sur 1000 personnes qui a comparé la survenue d'allergies chez les enfants et les parents qui avaient un potager bio et qui avaient leur plat à la main avaient très peu d'enfants allergiques, par opposition aux autres. Hmm. Parce qu'ils apportaient du biote de leur terre, dans la terre intérieure. J'appelle le biote intérieur la terre intérieure. Et donc, les enfants avaient une bonne immunité, pas d'allergie. Ça, c'est très, très simple. Alors, petit détail supplémentaire. On ne se rend pas compte, mais nous sommes entourés de produits chimiques. Quand vous nettoyez la vaisselle à la main, vous n'appauvrissez pas votre flore. En revanche, vous nettoyez la vaisselle dans un lave-vaisselle, vous avez un composé chimique extrêmement agressif qui décolore même votre assiette. Hein. S'il y a des petits dessins dans l'assiette, au bout d'une année, il n'y a plus de dessins.
Il n'y a plus trop de dessins. Hein.
Donc ça, il a été démontré que ce produit augmentait la perméabilité digestive et abrasait la muqueuse et diminuait la flore.
Mais parce que vous buvez dans le verre ou que vous...
C'est pas rincé suffisamment. Donc c'est propre, mais pas rincé. Et désormais, vous avez énormément de publicités qui disent « Vous avez moins de gaspillage d'eau dans un lave-vaisselle qu'un nettoyage à la main. » Oui, vous ne rincez pas suffisamment par rapport au produit et à l'agressivité. Nous sommes entourés de composés agressifs.
Et ce que vous disiez sur les huiles essentielles, c'est... alors moi j'ai tout faux, hein. Donc je mange beaucoup de fruits, je pensais que je mangeais des légumes, mais je mange beaucoup de fruits, je vais 3 fois à la piscine par semaine,
oh là là.
Donc voilà, et en plus je mets des huiles essentielles et des bougies, donc...
c'est perdu là, il va falloir rôder dans les jardins et vous salir les mains pour ramasser vos légumes.
Donc en fait la piscine c'est pas bon du tout, c'est ça que je comprends, je vais pas m'arrêter cela dit, hein. Enfin je pense pas. Mais...
Les études sont foison désormais, je dirais les anglo-saxons sont très friands de ces études, j'ai envie de dire comment se comporter pour vivre bien et longtemps. Nous, rationnel,
on
Descartes, hein, très, très médicament. Les anglo-saxons, donc on a des publications extrêmement intéressantes sur quel type de sport. Donc premièrement, si on veut avoir une flore riche et peu de fermentation à hydrogène, c'est du sport type course, marche, vélo. La piscine ne modifie pas la dysbiose. Deuxièmement, quel est le sport, l'activité physique qui diminue le syndrome métabolique, augmente l'immunité, puisqu'on préconise le sport même en cancérologie. Et ça fait des différences notables de 15 à 20% d'augmentation de survie, rien que le sport. Même dans le cancer du sein, je dirais, résistant au traitement. Donc, le sport, et donc là, on a la marche, la course, le vélo, encore une fois, mais aussi le qigong, le yoga et la danse. Donc, des activités ludiques où on respire, où on n'a pas besoin de suer à grosses gouttes, même si la Zumba, c'est parfois un petit peu difficile pour ceux qui sont un peu sédentaires, du moins au début. Eh bien, tout ça, ça améliore la flore, alors que la piscine, pas du tout.
Pourquoi la piscine, ça n'améliore pas ?
Ben, ça détruit, c'est désinfectant.
Ah oui, parce qu'il y a de l'eau de Javel.
Il y a de l'eau de Javel, d'une part. Vous aurez un estomac qui ne se vide pas, parce que c'est un peu stressant l'eau et le nerf vague n'aime pas, c'est froid. Pour vider un estomac, il faut que ce soit chaud. Donc c'est le sauna, c'est pas le froid. Vous avez beaucoup de virus quand même. Le papillomavirus, les virus, ça s'attrape en piscine, en grande partie. Donc vous avez un terrain viral, une flore pauvre, du froid, un estomac qui ne se vide pas, c'est pas approprié.
Bon.
Vous sortez, vous prenez une douche avec des produits chimiques, vous vous désinfectez... Et puis, il ne reste plus rien.
Ok, bon.
C'est mieux un jardin qu'une piscine. Jardiner.
Ah oui, jardiner, oui.
C'est beaucoup mieux.
Oui, il faut avoir un jardin, mais oui.
À la place de la piscine.
C'est ça. Ah, ben, j'ai pas la piscine chez moi.
D'accord.
Une piscine municipale. Et les huiles essentielles à la maison, les diffuseurs, vous disiez ?
Je pense que ce n'est pas approprié. Il y a eu un travail sur les huiles essentielles. Multiples qui étaient diffusés et ils ont regardé s'il y avait plus ou moins d'allergies. Et en fait, ça augmente les allergies puisque dans les huiles essentielles multiples, il y a de nombreuses essences qui sont allergisantes. Le géranium est une catastrophe, par exemple. Donc, on a tout intérêt à avoir une huile essentielle peu allergisante si on est infecté. Exemple. Le plus simple, c'est on a une petite infection bronchique ou laryngée, on va non pas diffuser, mais mettre sur la peau un peu d'eucalyptus. Eucalyptus radié, tout simplement, ça va traverser, ça ne tue pas le microbiote et ça va être éliminé par le poumon. Ça, c'est correct. Mais si vous diffusez un ensemble, vous tuerez votre flore et vous allez finalement l'absorber petit à petit, vous allez le déglutir. Donc ça, ce n'est pas approprié. Et vous aurez un effet très néfaste qui est l'effet des particules. Donc les particules, c'est le numéro un dans la toxicité. Il y a une grande étude donc, qui a montré qu'il y avait trois grands paramètres. Les particules, le tabac, les particules de l'environnement, qui vont baisser l'immunité, créer une inflammation avec dégradation des muqueuses. C'est une inflammation à neutrophile, très agressif. Très agressif, c'est l'immunité inné dont on a parlé, ça explose, ça finit par détruire un tissu pulmonaire, ça donne une effraction, une perméabilité, risque tumoral. Ça, c'est la particule. Le deuxième, c'est le cytomégalovirus, un virus herpétique qui baisse l'immunité, on en a déjà parlé. Et le troisième, c'est la graisse dans la cellule, c'est inflammatoire, c'est rattaché au diabète, au syndrome métabolique, au défaut de nettoyage par le sel biliaire. Donc ça, c'est la flore pauvre. Donc si vous apportez des particules avec des huiles essentielles, vous jouez sur les deux grandes. C'est-à-dire excès d'inflammation des muqueuses, neutrophilie, pauvreté de la flore, de la graisse, vous ne pouvez plus vous défendre. Et il y a de fortes chances pour que vous fassiez le lit des herpès virus et que ça finisse avec une baisse immunitaire, avec cytomégalovirus.
Alors, juste, parce que je vous ai un peu coupé, mais pour revenir sur ce qu'on doit manger, donc vous disiez des légumes, pas des fruits, moins de fruits. Donc, mais il y a beaucoup de sucre dans l'aubergine, alors
Il y a un peu de sucre dans l'aubergine. On peut soit la blanchir, soit en manger modérément. Mais vous n'êtes pas contraint de supprimer tout ce qui est bon dans une assiette.
Mais oui, non, c'est ça.
En général, si vous voulez, la première étape, c'est toujours un diagnostic. Quelle est la personne ? Quelle est la dysbiose ? quel est son point faible. Donc, première étape, y a-t-il un déficit immunitaire? Y a-t-il eu des gros Covid? Est-ce qu'il y a des gencives qui saignent? Est-ce qu'il y a eu un zona? Est-ce qu'il y a eu des grippes? Est-ce qu'il y a des boutons de fièvre? Est-ce que la langue est découpée? Est-ce qu'il y a des antécédents particuliers suggérant une baisse immunitaire? Il faut régler ça immédiatement parce que là, on est en train de découper les muqueuses, d'abîmer le nerf. Donc ça, on en reparlera, il y a un premier protocole. Le deuxième protocole, eh bien, c'est la flore est-elle riche ou pauvre? Si elle est pauvre, eh bien, on va baisser les sucres, stimuler les sels biliaires pour nettoyer les graisses, essayer de rétablir cet équilibre glycémique. Et là, bah, vous allez proposer un régime pauvre en sucre, pauvre en produits fermenteurs. C'est un régime que l'on appelle pauvre en FODMAP. Voilà, fermenté cible, oligo, mono, et disaccharide et polyol. Donc là, il y a une liste. On propose, on indique, vous baissez un peu les fruits, vous augmentez les légumes, comme c'est un peu indigeste, on les blanchit, vous maintenez les protéines, vous augmentez les oméga-3 alimentaires, pas en gélules s'il vous plaît, parce que ça donne des arythmies.
C'est quoi une arythmie?
C'est un trouble du rythme cardiaque avec un risque d'accident vasculaire. Donc on ne donne pas des grosses doses, c'est ce qu'on appelle l'effet matrice. Si vous donnez une grosse dose d'un produit brut, vous avez un pic et des risques d'effets secondaires. En revanche, vous avez des fibres, ben vous avez une sorte d'aplatissement de la courbe où ça s'absorbe lentement et ça reste au niveau de la muqueuse. C'est l'effet barrière. Donc la matrice, c'est l'aliment. La carotte, c'est mieux qu'un jus de carotte. La pomme, c'est mieux qu'un jus de pomme. Les amandes, c'est mieux que des pâtes d'amandes. Donc on fait attention à tout ça et on a finalement... des couches, on est comme dans un flux laminaire. Le centre de l'intestin est gorgé de nutriments, mais petit à petit, on a une sorte de filtre avec des choses de plus en plus fibreuses qui viennent coller à la paroi, qui est la barrière finale, et tout ça, c'est très riche en biote. C'est vous transformez en quelque sorte l'intérieur du tube digestif qui est l'extérieur, qui est l'aliment, donc le centre. C'est très proche de l'aliment. Et la périphérie, qui est vous-même, se transforme petit à petit en une zone dénuée de flore agressive. Vous avez une sorte de tamis progressif qui vous crée une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Vous êtes protégé. Sinon, vous êtes en prise directe. Et là, c'est perméable. Vous avez une bactérie qui mange les sucres. Elle va vous manger, vous, l'étape d'après. Une fois qu'elle a fini de manger, elle est bien obligée de continuer la suite. Et la suite, c'est vous, malheureusement. Donc, on retrouve de l'hydrogène à jeun, ça veut dire que vous êtes découpé par votre flore. Donc, un sujet qui vient à jeun et qui a de l'hydrogène à jeun, c'est qu'il est mangé par sa flore. Donc, premier grand diagnostic de dysbiose. C'est la pire des dysbioses. Vous servez de casse-croûte à vos bactéries. Vous imaginez? Vous leur donnez le gîte et le couvert, et en plus, elles vous détruisent tout. Donc ça, c'est le premier signe de dysbiose inacceptable.
Et ça, on peut le savoir
immédiatement. Comment? Le patient vient à jeun, on fait souffler dans un petit ballon avec un test respiratoire. D'accord. S'il y a de l'hydrogène à jeun, vous êtes découpé puisque vous n'avez pas pris de sucre depuis 10 heures et vous avez un gaz qui ne peut provenir que de la consommation de sucre. Le sucre, c'est vous. C'est votre muqueuse.
D'accord.
Et votre sointement plasmatique. Vous êtes en train de servir de repas
à, vous, okay, à votre bactérie. Qu'est-ce que vous pensez du jeûne intermittent? Et pour les hommes et pour les femmes? Parce que j'ai entendu que c'était moins bien pour les femmes en fonction de leur cycle, mais je ne sais pas du tout si c'est réel ou...
Le jeûne intermittent, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose quand c'est utilisé correctement. C'est comme tous les outils. Si vous me dites une masse, c'est un bon outil, je vous dis très oui. Mais pas pour frapper à une porte.
Non.
Donc là, vous avez donc une utilisation. Vous avez une personne qui est en malabsorption, qui perd du poids avec un os fragile, le jeûne intermittent n'est pas approprié. Le jeûne intermittent est destiné à supprimer la graisse viscérale et à transformer un microbiote qui crée du gras en microbiote qui consomme du gras. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une cétose. Normalement, un sujet, au bout de 10 à 12 heures de jeûne, vient chez vous, vous faites un test respiratoire, il y a des cétones. Ça se mesure avec un petit appareil de mesure très simple. Et vous dites, très bien, vous êtes réellement en jeûne, il n'y a pas d'hydrogène, vous avez des cétones, et l'hydrogène sulfureux, c'est-à-dire l'épaisseur de votre muqueuse, est correcte. Parfait. En plus, si vous avez trois petits pics qui disent flore diversifiée, vous avez tous les paramètres. Trois pics, cétones, hydrogène sulfureux, vous êtes sûr qu'il n'y a jamais de perméabilité. Pas d'inflammation, vous avez gagné. Donc soit vous l'avez remise sur pied et c'est bon, soit elle est déjà avec une bonne flore, vous dites c'est pas le problème. Donc ça, c'est le point numéro un. Vous avez une personne qui ne fait pas de cétone. Vous allez lui dire, ce que vous mangez, c'est pas approprié et vous mangez trop, puisque vous faites du gras même 10 heures plus tard, votre intestin est bloqué. On va débloquer ça par un jeûne. Et a priori, au bout de 14 ou 16 heures, vous ferez des cétones. Donc on va mettre en place un jeûne intermittent. Vous avez l'indication, qui est un syndrome métabolique. Vous avez l'outil et vous avez le moyen de mesure pour concrétiser que ça marche. Quand ça a marché, elle perd du poids. La graisse dans le foie diminue, dans le pancréas diminue. La glycémie diminue, l'insuline diminue. Et puis vous avez une meilleure vidange. En général, il y a plus d'énergie, moins de fatigue. Et vous ne risquez pas d'affaiblir la personne puisqu'il y a de la graisse à manger et de l'énergie à revendre. Donc elle est capable de créer de l'énergie, qui est la cétone, pour nourrir son cerveau. Et on supprime un effet qui est un effet protumoral, qui est l'effet Warburg. Bon, c'est un petit peu technique, mais très connu. La cellule tumorale se nourrit de sucre et de glutamine. Si vous supprimez le sucre, vous bloquez les cellules tumorales. Il y a un petit rat qui est un rat taupe qui vit 10 fois plus que le rat normal parce qu'il n'y a pas de production de... Il y a des productions de cétone et pas de production de composés organiques lourds dans la consommation des sucres. Donc il n'y a pas d'arrivée de glucose dans les cellules tumorales. Donc simplement par cet effet, on a une augmentation de l'espérance de vie colossale. Et on utilise d'ailleurs des bloqueurs de l'effet Warburg en cancérologie désormais qui marchent très très bien. Et on pense que la metformine bloque aussi cet effet Warburg. Parce que ça bloque le passage du glucose vers cette voie, qui est une voie assez catastrophique. Pour illustrer... La voie normale qu'on enseigne en médecine, la voie biochimique, c'est un glucose donne 36 ATP, 36 molécules énergétiques par la mitochondrie. L'effet Warburg, c'est 2 ATP et des déchets. Et ces déchets, malheureusement, sont des fragments à plusieurs carbones qui sont utilisés par la cellule tumorale pour créer de nouvelles cellules. Parce qu'à partir d'ATP, une cellule ne peut pas reconstruire du tissu. En revanche, à partir de fragments, comme l'acétate, le propionate, la cellule crée des cellules tumorales. Donc plus vous êtes brouillon dans votre production d'énergie, plus vous faites de tumeurs. Donc l'objectif, c'est la cétone. Vous produisez de l'énergie avec beaucoup d'ATP et vous stimulez pas les cellules tumorales. D'où l'intérêt du jeûne intermittent.
Et c'est valable pour les hommes, pour les femmes, ça n'a rien à voir avec le cycle.
Normalement, vous avez un petit effet du cycle. Donc, en effet, une femme peut avoir une moindre efficacité pendant la fin du cycle. Mais je pense que c'est bénéfique pour tous.
D'accord. Et si, moi dans mon cas par exemple, où je fais du jeûne intermittent régulièrement, pas de manière systématique, il y a des fois où je prends un petit déjeuner, mais c'est quand même très rare, et que je ressens quand même des fatigues, après avoir mangé en particulier du sucre, hein, c'est assez classique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un problème de... Il y a forcément un problème à un endroit, mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où ce qu'il est.
Ça veut dire que vous bénéficiez des cétones et du régime cétogène, pas régime cétogène, du jeûne intermittent les premières heures, mais dès que vous réintroduisez du sucre, ça se met tout de suite en production de graisse. Donc vous avez un estomac qui se vide probablement mal et une flore pauvre. Donc vous avez fait la première partie qui est le cétogène, mais vous n'avez pas fait la deuxième qui est enrichissement de la flore et vidange de l'estomac. Donc vous n'avez pas réglé la cause. Vous avez fait du symptomatique. Le jeûne intermittent est du symptomatique. Ça vous aide à baisser la graisse foie pancréas. Le pancréas, c'est une glande, c'est très astucieux, l'anatomie, c'est très astucieux. C'est une glande qui est en crochet. Et vous avez deux grosses artères qui passent, et vous avez l'intestin qui passe entre les artères. Et donc ce crochet, c'est en quelque sorte un trombone. Ça va coincer l'intestin. Et si ce trombone grossit, il va pincer l'intestin et ça ne peut plus se vider. Donc, dès que vous avez une graisse dans le pancréas, le cercle vicieux est amorcé. Vous devez dégraisser le pancréas. Donc, si vous contentez de faire un jeûne intermittent, vous aurez une cétose, mais insuffisante. La cétose va toucher le foie, mais le pancréas reste intact. La pince reste intacte. C'est l'effet yo-yo. Vous avez jeûné, perdez un petit peu de poids, bravo.
Même pas.
Vous reprenez le sucre, pan. Donc votre régime a servi juste pour la plage.
Ok.
Puisqu'à la fin de l'été, vous reprenez vos mauvaises habitudes, le pancréas est intact, la glycémie n'a pas baissé, l'insuline non plus. C'était juste du symptomatique.
D'accord.
Donc l'objectif, toujours, il faut le retenir, c'est du long terme. C'est une habitude à mettre en place. Et ça, c'est problématique. Vous avez des gens qui me disent « Oh là, ben le régime, oui, je vais le faire, tout ça. Mais je vais le faire combien de temps ?» Je dis « Mais ça, c'est comme le tabac, ou se laver les dents, ou boire moins. » C'est une hygiène de vie. Vous allez donc apprendre à cuisiner avec des saveurs, des odeurs, de la couleur, mais toujours correctement. De la même façon, je vous conseille de vous laver les dents correctement toute votre vie. Et ça, c'est difficile à comprendre. Mais une personne qui a dérapé vers un syndrome métabolique, si elle reprend ses habitudes, même au bout d'un an, ça va recommencer comme au départ. Un microbiote ne meurt pas. Un biofilm ne meurt pas. Il en reste toujours quelque chose. Parce qu'un microbiote modifie les surfaces où il s'insère. Donc, vous aurez des zones qui sont abrasées, qui auront du mal à se reconstruire. Vous aurez des structures qui seront extrêmement fibreuses, qui vont rester, qui ne pourront pas être dissoutes. Vous aurez des sortes de petits canaux qui vont échanger les liquides et les métabolites, et même des petits filets nerveux qui vont échanger des électrons et bloquer une communication ou une vidange. Et vous aurez dans les structures fibreuses des spores qui vont se réveiller dès que vous donnerez à nouveau soit de l'alcool, soit du sucre, et qui vont reformer finalement les acides gras. Donc l'objectif, c'est d'éviter la fibrose, d'éviter l'immobilité et d'éviter la graisse. Pas de virus, flore, diversifié. On se sent très bien, on se dit j'ai vraiment beaucoup gagné à améliorer mon hygiène de vie.
On parlait de qu'est-ce qui est bien de manger ou pas, donc on a dit légumes, clairement,
alors,
idéalement.
Si on prend la liste des FODMAP, on va dire les fruits, oui bien sûr, il faut des fruits pour les vitamines, alors il y a des fruits qui ballonnent beaucoup et des fruits qui ballonnent peu. Donc ballonnement modéré ou peu, ça va être le kiwi, la banane, les baies rouges, les agrumes, un peu de raisin frais mais pas trop, le melon, pas trop. Donc on est aux alentours de 200 grammes par jour. Ensuite, on a les fruits qui ballonnent beaucoup. Alors on a les fruits gorgés de sucre parce qu'ils sont séchés. Les dattes, les raisins secs, les figues, à éviter. La cerise, c'est une catastrophe. La pastèque. Vous avez les pommes, les poires, modérément sous forme de compote. Vous avez les mangues, modérément. Et donc, on est dans le modéré 50 grammes par jour pour ce qui fermente, et le reste, 150, 250 grammes. Donc, ça, c'est tout à fait raisonnable, et en général, on se dit, on va mettre ça dans le goûter. Y compris pour les enfants, pas de jus de fruits. On retient un verre de jus d'orange, c'est 14 grammes de sucre. Colossal, c'est comme une canette de coca. Donc on évite les jus de fruits, on a des fruits entiers. Et pour ce qui est un peu indigeste chez les gens qui ballonnent, c'est une compote. Donc ça, le fruit, on garde. Ensuite, beaucoup de légumes, c'est très bien, et on met beaucoup d'huile. Donc plus on vieillit, ou plus on veut rester jeune, plus on va mettre de l'huile riche en oméga-3. On ne prend pas de gélules. Donc les oméga-3, ça va être le tournesol, ça va être l'huile de cannelline. Les oméga-9, c'est l'huile d'olive, c'est très bien. Attention aux oméga-6, on n'en met pas trop.
Oméga-6, c'est quelle huile ?
Alors, c'est l'huile de lin, par exemple.
Ah oui.
Donc on fait attention, vous regardez sur les formules. On évite l'huile de noix qui rancit beaucoup et qui contient beaucoup de mycotoxines. Donc on essaie de mettre au moins 2 cuillères à soupe d'huile. Ensuite, on a toutes les protéines, pas de problème. Attention aux protéines végétales, c'est peu assimilable. On aime bien les œufs, on aime bien le poisson. Comme ça, on préserve les mammifères. Il n'y a pas de charcuterie, bien sûr, ce n'est pas une bonne idée. Et puis, pour ceux qui ont des tendresses pour les volailles, on évite. Mais sinon, on profite de la volaille. C'est très bon, c'est peu gras et ça contient beaucoup de vitamines.
Et le soja, donc ?
Le soja, ça a plusieurs inconvénients. Premièrement, c'est une légumineuse. Il faut que ce soit bien blanchi. Donc, il faut du tofu plutôt que du soja. Ensuite, c'est phytoestrogène. On évite dans les cancers du sein, il ne faut pas en prendre trop. C'est vraiment favorisant quand c'est trop dosé. Sinon, les phytoestrogènes sont bons pour la santé, mais le soja, c'est l'exception. Donc, on évite les protéines, si on peut, en excès les protéines végétales. Dans les composés qui sont très riches en protéines, on a le quénopode, c'est une sorte de quinoa, et on a l'ortie. On devrait réintroduire l'ortie dans nos plats, plutôt que de prendre des cuillères à café de spiruline, donc d'algues, on ferait mieux de prendre des cuillères à café d'ortie. C'est phytoestrogène, bon pour l'os, très riche en protéines, c'est comme le steak, très riche en minéraux. Et on trouve à un prix identique à la spiruline de la bonne ortie. Si on est dans une zone rurale, courez chercher des orties à 30 mètres de la route, bien sûr, et ça se sèche très bien, on fait d'excellentes soupes.
Il faut avoir des bons gants.
Il faut des bons gants, mais quand on sait cueillir, on ne se pique pas. Donc l'ortie, c'est un aliment de choix. Avant, quand on avait des volailles qui n'arrivaient pas à prendre du poids, on leur donnait de l'ortie. Et puis on récupérait tout l'élevage de volailles. Rien qu'avec des orties.
Okay.
Donc ça, c'est le côté protéines. Si on descend encore un peu, on a le fromage sans lactose si possible, donc un petit peu affiné, ou du fromage de chèvre, ou du brebis. On ne prend pas de yaourt, pas de fromage blanc, pas de chocolat au lait. On évite la crème avec le lactose, on évite la crème glacée. C'est le lactose, tout ça. C'est bon pour tout le monde, même pour l'enfant, pas trop de lactose.
D'accord.
Voilà, c'est bon. Sinon, ça va ballonner.
Le lactose, donc, c'est bon pour...
Le lactose, c'est pas bon. Ça favorise une flore qui est trop abondante, qui crée de l'hydrogène. Et ça va faire beaucoup de gaz, et ça va amener finalement de l'inflammation, des douleurs, et ça va amener une flore agressive. Elle va toujours déraper rapidement vers la flore Prevotella, qui donne des caries et des atteintes virales et gingivales.
C'est vrai, parce que dans notre culture, le yaourt, c'est censé être bon pour la santé.
Oui, mais il faut du yaourt sans lactose. Parce que si vous prenez du yaourt, du lait, du chocolat au lait, vous serez très vite au-dessus de la dose. Donc en général, c'est du chocolat noir, 2 carrés, par jour. Pas de yaourt, il faut mieux du fromage. C'est plus concentré en calcium. On sait que le calcium va chélater l'oxalate des légumes. Comme on en mange beaucoup, il faut peu d'oxalate, sinon ça donne des calculs dans le rein. Et puis, il a été montré par l'effet matrice que le calcium du fromage était bénéfique pour l'os, alors que le yaourt ne l'est pas.
Mais c'est pas trop gras, le...
C'est un petit peu gras. Mais enfin, si vous avez un apport d'oméga-3, vous pouvez manger 2 fois 30 grammes. Ensuite, on vérifie, bien sûr. Dans la technique anti-âge, on utilise le LDL, mais surtout le rapport entre triglycérides et HDL, c'est-à-dire le triglycéride et le bon cholestérol. Si vous êtes inférieur à 2, c'est bien. Donc, vaut mieux manger 2 portions, 2 fois 30 grammes de fromage, avoir une bonne muqueuse des os solides, que de jouer avec un cholestérol très bas et finalement une malabsorption. Donc ça, c'est le fromage. Ensuite, dans les boissons, on boit modérément. C'est pas la peine de boire 2 litres d'eau. L'eau peut être contaminée. peut y avoir des perturbateurs endocriniens avec le plastique. Faut la filtrer, bien entendu. Et puis, si vous buvez trop d'eau avec un estomac qui ne se vide pas, vous ferez du gras. Donc, ça ne vous aidera pas.
Comment
vous
générez du gras?
Vous avez un estomac qui ne se vide pas. Vous mettez un litre d'eau dedans. Ça va mettre un temps fou à se vider, que ce soit de l'eau ou des aliments. Donc, l'estomac va synthétiser de l'acide. Il va empêcher les enzymes pancréatiques d'être efficaces. Ce sera de l'acide acétique et ça va graisser absolument tout le foie et le pancréas. Si en plus vous mettez des probiotiques, vous avez gagné 5 kilos de plus. Dès que vous mettrez des bactéries qui fermentent et du sucre, une bonne choucroute, un chou lacto-fermenté, une betterave lacto-fermentée dans un estomac qui ne se vide pas, que vous rajouterez ou pas de l'eau, vous aurez une grande synthèse d'acide acétique. L'acide acétique n'est pas tamponnable par le bicarbonate du pancréas. Vous allez détruire toute votre flore sous-jacente et faire plein de graisse. C'est physiologique. Donc on ne boit pas trop. On boit pour avoir une diurèse suffisante, qui est une diurèse d'un litre et demi. Ça correspond environ à, on va dire, 4 ou 5 mictions par jour. Si vous dépassez ça, si vous allez faire pipi tout le temps, ça veut dire que vous avez bu trop d'eau. Théoriquement, vous mangez au moins 5 à 600 grammes de légumes, 200 grammes de fruits, ça fait déjà pratiquement 700-800 millilitres d'eau. Il ne reste plus grand-chose pour aller uriner, je dirais, 1,5 litre en tout. Dans la viande, il y a de l'eau. Si vous buvez un peu de café, ou si vous utilisez la parole, vous êtes obligé de boire également. Vous testez votre déglutition. Donc, je dirais, on boit modérément. On ne boit pas de jus. Pas de jus de légumes, on a vu pourquoi. Pas de jus de fruits, on a vu pourquoi. Le café est très bon pour la santé. Il est démontré que ça vide l'estomac et qu'il y a tellement de polyphénols qu'on a finalement le même effet que 5 fruits et légumes par 2 tasses de café. Donc dans l'étude NutriNet Santé, il est montré que le café avait écrasé tout le bénéfice du légume bio. Donc ils se sont demandé pourquoi ils ne pouvaient pas reproduire la même efficacité, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas tenu compte du facteur confondant qui était buveur ou pas buveur de café. Donc le buveur de café fait aussi bien que le mangeur de légumes.
Il ne faut pas en prendre trop non plus, j'imagine.
2 cafés par jour.
Et le thé?
Non. Le thé n'est pas efficace. C'est triste pour les buveurs de thé.
Mais moi, je suis un buveur de thé. Décidément, j'ai tout faux.
Ce n'est pas faux. Vous avez des polyphénols, mais c'est moins fort que le café.
D'accord.
Voilà. Donc, on boit très peu d'alcool. L'alcool détruit le nerf vague. Vous avez des gens très fragiles. Ce n'est pas juste. Mais la vie n'a jamais été juste. Donc, vous avez des gens avec 2 verres de vin par semaine qui vont avoir un estomac qui ne se vide pas. Et quand ils font la fête à 3 verres, c'est une catastrophe, l'estomac ne se vide pas. On voit une boule de liquide à l'échographie, on n'arrive pas à faire vider l'estomac, même avec des manœuvres d'ostéopathie, et puis on a très souvent une atteinte biliaire qui s'ensuit. Donc là, on est très triste, mais on fixe à 2 verres de vin, sans bulle et sans sucre, quand on fait la fête. Ça fait des petites fêtes. Mais ça fait un bon nerf vague et une grande espérance de vie. Donc soit on fait des grosses fêtes avec une petite espérance, soit on fait une grande espérance avec des petites fêtes. Mais on peut être très heureux avec des petites fêtes. Vous savez, c'est une question d'entraînement.
Ah bah c'est sûr.
Des gens heureux avec des petites fêtes.
Moi ça va, je ne vois pas beaucoup cela dit. Non.
C'est bien.
J'ai
donc
au moins
là,
ça.
C'est bien. Bravo.
J'ai au moins ça. Je voulais vous parler des selles, qui est un gros sujet aussi. Il y a plein d'incompréhensions sur ce sujet. On dit, entre autres, que dans les selles, il y a du microbiote qui s'en va. Donc Et il y a plusieurs choses qui se passent. Moi, ce que j'observe autour de moi, on va dire, des nettoyages de côlon. Donc j'aimerais bien comprendre si ça, c'est bien ou pas. Il y a toute cette question autour, enfin j'ai vu en tout cas des médecins spécialisés sur l'insertion de microbiote par le rectum, en gros. enfin, insertion, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne.
Oui, on va dire un ensemencement colique.
Voilà, c'est ça.
Par de la flore...
Vous avez les meilleurs mots.
Par de la flore collectée et puis, on va dire, accréditée. Bonne flore, donc...
Parce que quand on dit comment ça va, c'est comment ça va à la selle.
Donc oui, en vrai, théoriquement, c'est vrai que... comment allez-vous ? C'est êtes-vous constipé ou avez-vous la diarrhée ?
C'est ça. Et c'est, donc c'est vraiment important la manière dont on va aux toilettes, la couleur des selles, combien de fois on y va, j'imagine la consistance.
Alors, il y a plein de questions dans tout
oui,
ça.
Oui, il y a plein de questions, mais je descends d'un coup sur les selles.
Voilà. Vous avez vu ma perception, et puis je vais le réaborder. L'essentiel du métabolisme noble, qui est la diversité, la motricité, qui est le nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf crânien qui va jusqu'au sigmoïde, c'est-à-dire le sigmoïde, c'est la fin du côlon, c'est 20 cm au-dessus du rectum. Donc le nerf vague, ce qui a un lien avec votre sensibilité, vos valeurs, votre fatigue, votre mémoire, ça s'arrête au sigmoïde. Donc la partie noble, c'est ça. C'est ce qu'il faut travailler, en gros. C'est ce qui va déterminer votre inflammation, votre immunité, votre nutrition, votre anti-âge. Pof, nerf vague. On vous a coupé ici. Le dessous, c'est les selles. Voilà. Donc déjà, vous vous dites, c'est mal parti pour ceux qui... Mais c'est de la physiologie. Rappelons la physiologie. Enfin, on a une unité immunitaire. Si notre immunité venait du rectum, ça se saurait. Moi, j'ai fait de l'immunologie. On ne m'a pas enseigné ça. Même chez l'oiseau, c'est pas ça. Le poisson non plus.
D'accord.
Bien. Donc, l'immunité, c'est le thymus, en partie. C'est là, c'est la moelle, c'est la rate. C'est en partie le foie. Bref, c'est la partie haute. Donc, le rectum, on ne voit pas trop ce qu'il vient faire là, hormis servir de réservoir. Les bactéries sont dans mon aqueurgeois, elles se mangent les unes les autres, elles mangent les petits déchets qui restent, et puis c'est évacué par un réflexe qui est reptilien et qui dépend de la moelle. Voilà, résumer les choses. Deuxième grande présentation, on peut analyser les selles, et on va vous dire, ah, il y a une flore diversifiée, où il y a du candida, où il y a trop d'Escherichia coli. Et en gros, on se sert d'un marqueur actuellement qui s'appelle Akkermansia. Akkermansia, c'est même donné en probiotiques. On fait beaucoup de choses rigolotes avec les probiotiques qui n'ont pas de sens. Une bactérie, c'est un marqueur de qualité. Ce n'est pas une cause de qualité. Je donne souvent un exemple qui est simple, c'est la truite. La truite, c'est un marqueur de qualité de l'eau. Si la rivière est claire, oxygénée, non toxique, vous avez des truites. Mais si vous mettez une truite dans un marais, elle va mourir. Donc ce n'est pas parce qu'il y a Akkermansia quelque part que c'est Akkermansia qui fait de l'eau claire. C'est parce qu'il y a de l'eau claire qui est Akkermansia. Donc c'est parce que ça marche très bien en eau que vous retrouvez 2% d'Akkermansia dans les selles. Et ce n'est pas parce que vous injecterez 2% d'Akkermansia par voie rectale que vous aurez un résultat. Vous aurez un faux résultat. C'est un masque. Vous en aurez collé partout, et à force d'en avoir mis, vous en récupérez un petit peu et vous direz « Regardez, c'est génial, je l'ai gavé d'Akkermansia et on en retrouve dans les selles. Oh, quel miracle !» Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Akkermansia est que dans le côlon, ça ne va pas changer le grêle. Il est présent parce qu'il y a hélicobactère dans l'estomac, un hélicobactère non agressif. S'il n'y a pas hélicobactère, il n'y en a pas. Vous imaginez là le bug chez le gastro-entérologue, il passe son temps à détruire hélicobactère. Alors là, on ouvre des grands yeux. Si on tue hélicobactère, on tue Akkermansia, on favorise le Crohn, les ésophagites à éosinophiles, la sclérose en plaques, les hépatites auto-immunes, et on supprime l'efficacité de la chimiothérapie complémentaire qui s'appelle l'inhibiteur de checkpoint. Vous vous dites là, on est tombé sur la tête. Donner des antibiotiques pour tuer la bactérie qui favorise Akkermansia, qu'on essaye de retrouver, voire d'implanter, soit par greffe fécale en gélule, soit par des clistères à l'ancienne. Mais en tout cas, vous dites, le problème, il est dans une civilisation qui détruit les bactéries sans trop savoir pourquoi, par application de règles, à mon avis, un peu désuètes. Et vous avez pendant ce temps-là des gens qui essaient de réintroduire, alors que ce n'est pas le problème. Ce qui réintroduit à Kermantia, c'est la diversité de la flore haute et la qualité des sels biliaires. C'est démontré. Donc, laissez tranquille le côlon. Tout ce qu'il faut, c'est permettre de supprimer la constipation. Il ne faut pas que le côlon bloque la vidange. Si vous avez une constipation importante du bout, on dit terminal, vous aurez une accumulation de sel dans le cécum et un reflux vers l'iléon, et ça fera un frein, l'estomac ne pourra pas se vider. C'est simple, hein, vous mettez un bouchon à la sortie d'un évier, à un moment donné,
ça marche plus.
Ça va déborder.
C'est ça.
Donc, c'est le principe. Donc, si quelqu'un a une constipation terminale, on fait des suppositoires d'élavement, où on donne plus de fibres, de façon à ce que cette constipation cède. C'est la première étape pour qu'il y ait une vidange correcte. La constipation terminale, c'est 5 à 10% des constipations. On donne des fibres, on donne du lactulose si besoin, on supprime la flore méthanogène qui participe et on a résolu le problème. 9 fois sur 10, c'est la partie haute, c'est l'excès de sucre. C'est un frein purement du grêle. Donc, tout débute par un diagnostic. Il n'y a pas de grand principe établi et a priori, l'hydrothérapie du côlon, la greffe fécale par voie basse, l'éclistère à répétition, ce n'est pas la solution du problème, c'est quand on n'a pas compris qu'on fait tout ça. Toujours même principe, et c'est la pédagogie même. On utilise un outil que quand on a fait un diagnostic. Et quand on a un moyen de mesure pour savoir si ce que l'on a fait était utile. Donc, premièrement, on définit quel est le biote. S'il y a un déficit immunitaire, si le nerf vague ne marche pas. Une fois que l'on a ça, on se dit, j'ai un virus, je le tue. J'ai une flore pauvre, je l'enrichis. J'ai une flore agressive, je la traite. Elle est d'origine buccale, c'est très simple. J'ai un vague qui ne marche pas, je m'en occupe à la fin, il ne faut pas qu'il y ait de virus ni de mauvaises bactéries. Et pour le nerf vague, ça va être du sport, de la stimulation avec un petit appareil, de la respiration, de la cohérence cardiaque et éventuellement de l'acupuncture. Tout le reste, c'est a priori farfelu et non prioritaire. On a vu, hein, trois grands critères. L'inflammation, particules graisses, cytomégalovirus herpès, diversité de flore. Je ne vois pas ce que vient faire la greffe fécale par en bas ou par en haut. La seule greffe, c'est une greffe par du biote de légumes, par en haut, si possible, avec un bon goût.
et le fait de nettoyer son côlon à l'eau, c'est à l'eau, j'imagine.
C'est l'hydrothérapie du côlon.
L'hydrothérapie, oui.
Alors, là, on est sur un problème de fond. Premièrement, vous nettoyez avec une canule, est-ce que c'est désinfecté? Enfin, moi, je n'aimerais pas qu'on mette n'importe quelle canule, on ne sait pas d'où elle vient. Hein. Donc, on a des hépatites A et B, il y a eu des cas d'hépatite B après des hydrothérapies du côlon. Vous avez le HIV aussi, il ne faut pas l'oublier, le papillomavirus, qui ne se mesure pas. Et puis, vous avez des choses beaucoup plus vilaines, comme les prions. On a la maladie de la vache folle. Il y a une étude un peu ancienne, certes, mais qui indiquait qu'on trouvait sur 200 appendices, un cas avec un prion. Donc, il y a des prions dans les appendices. Et qui vous dit que vous n'avez pas quelqu'un avec un prion qui est passé avant vous? Et le prion ne peut pas être désinfecté. Ça doit être mis en autoclave à 120 degrés et 2 bars de pression. Aucun appareil ne peut être désinfecté comme ça. Un endoscope n'est pas désinfecté, il est simplement rincé. Et les appareils d'hydrothérapie ne sont pas désinfectés, ils sont simplement rincés. Donc, c'est la base de l'hygiène. Vous imaginez, on injecte, pas grosse pression, mais on injecte un liquide à partir de tubulures rincées. On ne sait pas ce qu'il y a eu dedans. Il y a eu des sels du sujet antérieur. Donc ça, c'est pas très bien, ça, franchement. Il y a meilleur comme hygiène.
Okay.
Donc, c'est pas sérieux sur le fond. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez obtenir? Premièrement, dans un côlon, il y a beaucoup de choses possibles. Il peut y avoir des tumeurs, donc vous êtes trompé de diagnostic. Vous êtes en train de rincer un côlon avec une tumeur. Il peut y avoir un Crohn, une rectocolite, des parasites, des bactéries. Ce n'est pas le fait de le rincer qui va changer la flore. La flore, c'est ce qu'il y a au-dessus et ce que vous mangez qui le détermine. Vous ne changez rien. C'est comme si vous étiez en train de nettoyer le palier du bas et que la poussière venait du grenier. Enfin, faut commencer par le grenier. Hein? Donc, vous n'avez pas fait de diagnostic, vous dites, ben, ça ballonne, on va nettoyer le côlon. Ce n'est pas le gaz dans le côlon qui fait mal, c'est dans le grêle que ça fait mal. Le grêle, c'est 2 cm. Dès que vous êtes à 3, vous vous tordez de douleur. Un côlon, vous passez de 5 à 12, il ne s'est rien passé. Hein? C'est fait pour ça. Ça ballonne, un côlon.
Mais quand on a des gaz...
Vous avez des gaz, ils vont venir certes du côlon. Première possibilité, vous avez un transit lent, vous avez une flore méthanogène. Vous avez un transit rapide, c'est du gaz parce qu'il y a du sucre. Et vous aurez des petites bulles dans les selles. Donc là, c'est intéressant et on pose toujours la question, vous m'avez posé la question, même si ce n'est pas fondamental, on va dire comment sont les selles. Elles sont molles, elles sont dures, il y a du sang, il y a du gaz, ça flotte, ça ne flotte pas, c'est des petites billes. Donc, ça ne va pas nous dire le contenu, mais on va se dire c'est rapide, c'est pas rapide. Plus c'est mousseux, plus il y a des selles biliaires. Plus c'est explosif, plus c'est une intolérance au sucre. On a une petite piste. Ensuite, on se sert des gaz.
C'est quoi des selles explosives?
Ben, ça va dire beaucoup de gaz, pas trop mousseux et peu de sel.
Ah. Ok. Et donc, pardon, excusez-moi, ça me perturbe.
Bon, on s'intéresse, enfin, c'est de la clinique, hein, toujours pareil. On pose des questions. En général, bon, on va faire une simulation de micro-consultation. Le poids, la taille, avez-vous pris du poids? Est-ce que vous faites des infections? Avez-vous fait un Covid, une grosse grippe? Vous faites des boutons de fièvre? Vous avez fait un zona? La bouche est-elle abîmée? Ensuite, on va poser des questions sur les antécédents. Êtes-vous allergique? Est-ce que vous réagissez aux piqûres d'insectes? Est-ce que vous cicatrisez bien? Qu'est-ce que vous avez comme trouble digestif? Ça reflue, ça ballonne, ça fait mal. Comment sont vos selles? Diarrhée, alternance, pas alternance? Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce que vous avez fait des examens biologiques? Alors, comment est la glycémie, le cholestérol? Est-ce que le foie est touché? Est-ce qu'il y a un scanner, une échographie? Et puis là, on a déjà une petite idée. Et puis, on va demander un test respiratoire. La personne va souffler dans un ballon. On va dire, ben, vous avez telle flore, dysbiose, pas dysbiose, hydrogène à jeun, hydrogène sulfureux correct, muqueuse correct, perméabilité, pas perméabilité. Ensuite, une échographie. Est-ce qu'il y a du liquide dans l'estomac? À jeun, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a des calculs dans la vésicule, la graisse dans le foie, dans le pancréas? Est-ce que ça se vide? Où se trouvent les gaz? Dans le grêle? Il y a une muqueuse, il n'y a pas de muqueuse? Il y a du liquide dans le côlon, il ne doit pas y en avoir à jeun. Est-ce que ça bouge? Et une fois qu'on a fait ça, ben on se dit, le nerf vague marche ou pas? Il y a une muqueuse correcte? Il y a trop de gaz? Ça se vide pas? Il y a du foie, de la graisse dans le foie ou dans le pancréas? Bref, on sait à peu près. L'immunité est bonne. La flore est bonne ou pas, ça bouge ou ça bouge pas, la muqueuse est respectée. Là, vous vous dites, c'est clair, on va faire ça, ça et ça. Ça a marché, ça n'a pas marché, le patient a suivi, a pas suivi. Revenez dans 6 mois, on fera le point. Jouez le jeu, comme ça on saura si ça marche. Et si vous avez au moins l'envie que ça guérisse. Et puis si on a le moindre doute, là on va chercher une maladie inflammatoire du côlon, on fait un marqueur dans les selles, une atteinte du pancréas, encore une fois un marqueur dans les selles. Si on a des gros doutes, on demandera une coloscopie chez une personne de plus de 45-50 ans pour éliminer un polype ou une tumeur potentielle. Donc on est très méthodique, c'est pas une science approximative. On ne joue pas avec cette santé. Le microbiote est un vrai paramètre médical. On peut essayer de l'approcher, bien entendu, avoir un style de vie, mais l'idéal, c'est de savoir qui on est. Première étape. Donc, il faut un bilan. Vous êtes ça, on vous propose ça, et a priori, on vous a remis sur les rails. Flore diversité, diversifiée, pas de perméabilité, immunité correcte, transit correct. simple, la personne peut l'évaluer, ça a marché, c'est clair. Ensuite, on revoit tous les 2 ans si tout est régularisé, parce que ça ne bouge pas une flore, sauf si vous faites des âneries, des grosses fêtes.
Non, mais on a le droit quand même de faire des grosses fêtes de temps en temps, non? Ou pas?
Demandez à Djokovic.
On n'a jamais le droit de manger un pain au chocolat.
Si, non mais attendez, un pain au chocolat, c'est pas la fête quand même. Ça avait le droit à manger un peu plus de chocolat que d'habitude. Mais je dirais le pire. Enfin, on a quand même en gradation, on a le tabac. Ça, moins vous le faites, mieux ça vaut. L'alcool, c'est numéro 2.
Et le tabac, c'est pas que pour les poumons, on est d'accord?
Ah, c'est le poumon, la vessie, l'intoxication du nerf vague, la baisse immunitaire, l'inflammation buccale. C'est catastrophique, le tabac. L'alcool numéro 2, atteinte du nerf vague. Chez certaines personnes, c'est une destruction des selles biliaires, du foie très vite. La cholangite sclérosante, c'est en pleine explosion actuellement chez les jeunes. Catastrophique. C'est 4 à 5% de la population. Les jeunes se détruisent avant 25 ans. Okay. Ils ne s'en rendent pas compte. Hein. Les fêtes dans les prépas et les étudiants. Oui, alors on est stressé, on doit décompresser. Bah oui, mais là, il n'y a plus rien à décompresser, c'est foutu. Hein. Donc ça, c'est... Et le troisième, c'est le virus. Le virus qui fait d'énormes dégâts sur le nerf vague et la muqueuse. Et ça va aboutir, les trois vont aboutir à une dysbiose précoce.
Parfait. Ça fait déjà une heure et demie qu'on fait. Je vais vous demander à quoi, donc le podcast s'appelle Blanc, à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte?
Je pense que l'objectif quand on parle du microbiote, c'est d'améliorer la qualité alimentaire et de claquer la porte à de très nombreux compléments alimentaires. Ils sont trop nombreux. On est dans le commercial éhonté. On va avoir des compléments vitaminiques, des oméga-3 alors que ça devrait être présent dans l'huile. Les personnes vont prendre des compléments sans avoir fait de dosage préalable. Donc on ne sait pas s'ils en ont besoin, du zinc, du B9, du B12. Enfin, c'est la grande foire d'empoigne. Les méthodes folkloriques, on va vous mettre du microbiote, on ne sait même pas qui le fait, ce qu'il y a dedans. Du moment que c'est certifié et qu'il y a un label, que ça a été lu dans tel magazine, on va le faire. Prudence absolue. Prudence absolue. Vous pouvez non pas vous intoxiquer avec de la B12, mais croire que vous êtes protégé alors que ça ne sert à rien. Et que c'était de la vitamine D qu'il fallait prendre un petit peu plus. Ça va augmenter votre perméabilité, comme du curcuma sorbitol. C'est toxique tellement c'est absorbé et ça crée une perméabilité digestive.
Ah, c'est pas bien le curcuma?
Pas associé à des perméabilisants. Vous avez beaucoup de produits dont l'objectif est d'augmenter la teneur sanguine et on va rajouter un perméabilisant, on va mettre sous forme liposomale, vitamine C liposomale, et puis finalement ça va être plutôt néfaste qu'utile. Donc, danger de l'utilisation excessive des probiotiques, compléments alimentaires, recentrés vers l'effet matrice et vers des aliments. Ça, c'est la porte qui se ferme, s'il vous plaît. On commence par un diagnostic, et là, c'est la porte qui s'ouvre. Si vous voulez faire un travail de professionnel, allez voir un professionnel. Ça ne s'invente pas. On doit évaluer la flore, réfléchir. Cette personne doit vous expliquer les grands paramètres, qui vous êtes, doit avoir un paramètre de suivi, plus d'herpès, guérison des gencives, diversité de la flore, et vous devez aller mieux. Donc on ouvre la porte à la professionnalisation médicale ou thérapeutique, et non pas commerciale pharmaceutique. Il y a 2 mondes dans ce que j'appelle la médecine. Il y a la médecine diagnostique et la pharmacie thérapeutique. Mais c'est le médecin qui déclenche la pharmacie thérapeutique. Donc théoriquement, la médecine englobe les deux. Et désormais, il y a tellement une surabondance pharmaceutique qu'on oublie le médical. Je comprends qu'on ait beaucoup d'informations en tant que particulier. C'est fait pour débrouiller le problème. Ai-je besoin d'un spécialiste? Oui, non. Si j'ai besoin d'un spécialiste et que je ne suis pas parvenu en 3 semaines, 4 semaines à résoudre, je ne vais pas aller poursuivre par du bricolage, je demande l'avis. Parce qu'il y a peut-être une maladie inflammatoire, une tumeur, quelque chose de complexe, et j'ai besoin de savoir où aller. Donc j'ouvre la porte aux mesures et je ferme la porte aux compléments en excès.
Mais qui sont les médecins qui font ça? Parce que moi, j'ai été voir un gastro-entérologue il n'y a pas si longtemps, et il ne fait pas du tout ce travail que vous décrivez, en fait.
C'est une très bonne question. Qui est désormais l'expert du microbiote?
Bah oui.
Est-ce un immunologiste? Un médecin interniste? Qui va vous poser plein de questions, faire des examens biologiques? Un médecin spécialisé anti-âge? Qui va regarder le profil oméga 3, l'oxydation, les carences en vitamines, étudier votre biote, voir les anticorps anti-aliments. Vous allez avoir une foison d'examens complémentaires. Là, je ferme aussi un peu la porte. Faut pas ruiner les personnes inutilement. Faut cibler, faut une petite intelligence clinique. Faut regarder la bouche. Ça coûte pas cher et ça rapporte énormément d'informations. Donc, premièrement, on peut avoir, pour moi, un médecin anti-âge formé. Un gastro-entérologue formé sur le microbiote, c'est une minorité. Le gastro-entérologue actuel est un spécialiste de l'endoscopie, essentiellement. Accessoirement, spécialisé dans le foie, mais très peu. En tout cas, c'est un spécialiste de l'endoscope gastrique ou colique. Son objectif est de dépister les tumeurs et d'enlever les polypes. C'est fondamental. Et il est débordé. Donc, de toute façon, il ne vous accordera même pas 10 minutes pour parler du microbiote. Ça ne l'intéresse pas et il n'est pas formé pour ça. Donc, a priori, ne lui demandez pas, sauf si, comme moi, il est un petit peu attiré par le sujet. Et vous aurez des médecins généralistes qui seront intéressés par le microbiote et formés pour ça. Donc, cherchez un petit peu sur Internet, vous trouverez des personnes qualifiées, capables d'étudier votre microbiote.
Parfait. Merci beaucoup, Bruno.
Merci. Merci à vous.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !